Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 32 de la saison 3 de Jus du Banc. On se retrouve cette semaine pour un programme riche et complet puisqu'on va évoquer la Ligue 1, le football étranger, les futurs matchs de Coupe d'Europe. Je suis accompagné comme d'habitude du grand revenant Florent qui nous revient pour le deuxième podcast de suite, un record depuis quelques mois.
Ouais, ça va Flo ? Salut, ça va ouais.
Florent Antonucci de chroniquetactique.fr donc qui écrit un peu à droite à gauche lui aussi. Avec Christophe Cuchely aussi, de la Voix du Nord, des cahiers du foot, qui a couvert Paris-Roubaix, enfin un homme éclectique Christophe.
Et salut Raphaël, et de l'AFP aussi, mais ouais, c'est pas très bien, voilà.
Ah bah c'est très bien, c'est très respectable. On a une grosse annonce à vous faire même Florent, puisque vous l'avez peut-être vu avec les visuels que d'ailleurs t'as mis toi, on a refait la déco de Vue du Banc sur SoundCloud, sur iTunes, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. On est désormais accompagné de PMU.fr qui nous a sponsorisé, qui nous sponsorise désormais jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. On va proposer beaucoup de contenu, beaucoup de podcasts et ça va nous permettre aussi de créer une quasi quotidienne pendant la Coupe du Monde, Florent.
Ouais.
Et ça va être particulièrement intéressant parce qu'on aura du temps pour proposer des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire sans.
Voilà, t'as quasiment tout résumé. Hein. On va être accompagné, donc là on va faire un peu plus de podcasts d'ici la fin de la saison. Il y en aura un peu plus qu'un par semaine. Et ensuite, ouais, à partir du coup d'envoi de la Coupe du Monde, alors je sais plus, je crois que c'est le 14 juin, il me semble, jusqu'au 15 juillet, je crois que c'est ça les dates, mais j'en suis pas certain. Mais en gros, c'est dans ces eaux-là. Bah, on sera là. Quasiment tous les soirs, en tout cas tous les jours de match, ouais. On enregistrera un podcast le soir même et qui sera dans vos téléphones ou sur vos ordinateurs le lendemain matin pour l'écouter. Voilà. Ouais. Donc ça va être un certain challenge quand même parce qu'il va falloir être prêt tous les soirs. Mais bon, on se sent les épaules pour le relever, donc on va essayer de faire ça.
Ouais, puis ça va nous permettre aussi, Christophe, de couvrir un peu plus la fin de la Ligue des Champions d'ici la fin de la compétition, parce qu'on va être là le lundi et le jeudi aussi pendant la semaine.
C'est ça, et c'est aussi pour ça qu'on s'est bien présenté dans les règles au début du podcast. C'est parce qu'on espère, au-delà du fait de proposer plus de contenu, qu'il y ait encore plus de gens qui nous suivent. Et j'imagine qu'il y a des gens qui doivent arriver et prendre le truc en cours aujourd'hui, donc qu'ils sachent un petit peu qui on est et pourquoi on parle de foot. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on espère ne pas dire trop de bêtises d'ici la fin de la saison?
Ouais, bah pour rappel, je suis Raphaël Cosmidis. Ça fait bizarre de le dire, d'habitude on se présente pas comme ça, mais voilà, j'écris pour l'équipe.fr, pour les cahiers aussi. On est un peu du même groupe au départ, les espèces de tacticiens en herbe du web français. On a voulu monter ce podcast et on espère que ça séduira de plus en plus de monde, parce qu'en tout cas c'est grâce à nos auditeurs fidèles qu'on a réussi à accrocher PMU sur le coup. On espère que ça va durer et que ça va continuer à vous intéresser autant. Passons au contenu désormais, Florent, puisque il y avait beaucoup de choses ce week-end. Alors, c'est l'occasion de revenir un peu sur la Ligue 1 qu'on avait laissé de côté depuis les huitièmes de finale de Ligue des Champions, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais on a vu cette semaine pas mal de matchs sympathiques, notamment un Nice-Rennes surprenant, parce que c'était deux équipes qui étaient en grande difficulté lors de la phase aller du championnat et qui ont proposé un super match retour, là, un partout, but de Pléa, but de Bourigeaud. Mais ouais. Surtout du contenu des deux côtés, et là on s'est plutôt régalé.
Ouais, alors j'ai vu surtout la première mi-temps très attentivement, la deuxième mi-temps je sais plus ce que je faisais, mais je faisais autre chose. J'avais quand même un œil dessus, et c'est vrai que c'était un match assez plaisant entre deux équipes qui, on va dire, qui prennent soin du ballon désormais. Alors ouais. Nice, on le savait, hein, mais le Stade Rennais que j'ai vu aussi dans la semaine, puisqu'il y avait leur match en retard face à l'AS Monaco, où ils font un partout, et où j'avais trouvé qu'ils avaient fait une très bonne prestation parce que ils ont en fait quand j'ai l'impression, bon, quand la Mouchi est arrivée j'étais assez perplexe, hein, je vais pas le cacher, je crois qu'on était assez nombreux ici à être perplexes, hein. On est trois, je crois qu'on était tous perplexes.
Ouais, bah le truc c'est qu'on n'avait pas forcément beaucoup de souvenirs de ce qu'il avait fait avec la Côte d'Ivoire, et puis il avait pas vraiment eu d'expérience convaincante jusque là.
Bah, il n'y avait pas eu d'expérience de club vraiment.
Voilà, et puis il avait annoncé vouloir une équipe à son image, et le problème c'est qu'il avait pas encore d'image en tant qu'entraîneur. Alors t'as l'image du joueur fin et créatif, c'est peut-être celle-là finalement qui l'entendait, parce que c'est une équipe qui est plutôt ambitieuse depuis qu'il est arrivé.
Ouais, voilà, c'est de ça dont je voulais parler, parce que au final, quand on regarde aujourd'hui ce que fait Rennes, on a la même base défensive qu'avait Gourcuff, avec un 4-4-2, ouais. Assez compact, avec un bloc médian. La capacité quand même désormais d'aller chercher plus haut grâce à l'énergie, par exemple, d'un joueur comme Kazri, qui peut déclencher le pressing et qui n'a pas peur d'aller presser très haut.
Donc le retour d'Ismaïla Sarr aussi, qui est revenu de blessure.
Ouais. Et ensuite, avec la balle, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus souvent les principes assez simples, mais dont on parle souvent ici dans le podcast, d'appui remise, de troisième homme, de présence entre les lignes. On arrive à une équipe assez mature dans on va dire, dans les deux premiers tiers du terrain, c'est-à-dire pour ressortir la balle. Ça commence à être vraiment des choses. On commence, pardon, à voir vraiment des choses intéressantes. Et notamment avec la paire André Persic au milieu, qui sont un peu des milieux à tout faire et qui le font plutôt bien pour ce niveau-là en Ligue 1, je trouve. Et donc, face à Monaco, ils avaient fait une très belle prestation. Ils font un partout, mais ils auraient pu enlever le match. Je pense que c'était un de leurs meilleurs matchs de la saison. Hein.
Lamouchi l'avait évoqué comme peut-être le meilleur match depuis qu'il est arrivé et un des matchs références en termes de principes de jeu appliqués sur le terrain.
Ah bah, tu vois, je suis bien tombé parce que je n'avais pas vu beaucoup Metz ces derniers temps, surtout que j'étais. J'étais absent, mais
Rennes, oui.
Parce oui, que Rennes, si pardon, oui.
Metz, Lamouchi n'a pas encore eu. Si tu l'envoies déjà à Metz, ça va faire beaucoup de clubs en peu de temps.
Pardon. Mais voilà, dans les deux premiers tiers, ouais, une équipe qui commence à être assez mature, qui sait ce qu'elle fait, qui développe le jeu. Après, bon, dans le dernier tiers, il y a quand même il y a des améliorations encore à avoir, mais ça c'est normal, c'est le plus compliqué, c'est la finition. Ça dépend quand même beaucoup du talent d'un joueur comme Kazri qui a été très important dans leur saison pour prendre des points. On attend qu'un joueur comme Sarr, par exemple, franchisse un cap et soit beaucoup plus dangereux, en tout cas beaucoup plus régulier sur 90 minutes, même s'il doit souvent on va dire, récupérer des nombreux coups qu'il reçoit, parce que c'est un des joueurs peut-être les moins... les plus chahutés, on va dire, cette saison en championnat. Et ensuite, ouais, l'apport peut-être des latéraux qui est peut-être encore à améliorer. Mais en tout cas, il y a une belle base pour la saison prochaine. Après, il y a des questions qui vont se poser. Est-ce que Kazri, qui est leur joueur offensif le plus important, va rester? C'est loin d'être sûr parce qu'il n'est que prêté. Et vu la saison, il aura peut-être des propositions pour aller ailleurs. Mais c'est vrai que s'ils attrapent l'Europe, ils auront peut-être un argument de plus pour essayer de le conserver. Mais
quand tu évoques les joueurs sur le départ, il y a Persic aussi qui est en fin de contrat.
Ouais.
Qui monte en puissance et qui est un joueur très fin techniquement. Et d'ailleurs, sa relation avec Kazri sur le jeu entre les lignes a fait beaucoup de mal à Nice. Mais ça fait partie de ces joueurs que Rennes ne gardera peut-être pas.
Ouais. Et c'est vrai que ça serait dommage parce qu'avec André, ça fonctionne très bien aujourd'hui, cette paire.
T'as évoqué le problème des latéraux rennais, c'était un peu le cas du côté niçois aussi. Une équipe de Nice en 4-3-3 avec Seri, Lesmelou, Cyprien au milieu, Pléa côté gauche, Saint-Maximin à droite, Balotelli en pointe. Et puis ce problème, surtout Maxime Lemarchand à gauche, qui est plutôt habitué à jouer central, en l'occurrence là c'était Dante et Marlon dans l'axe, Souquet toujours à droite. Mais il y a eu cette animation dans les couloirs qui a été un peu défaillante, surtout que Lemarchand n'a pas forcément la finesse technique et la vivacité sur le côté pour apporter à Nice, qui pourtant a gardé toujours le même fond de jeu, peut-être qu'il manque de rythme un peu, à l'exception de Pléa. Alors il y a Saint-Maximin qui est toujours très créatif et très, très virevoltant, mais qui a du mal à rendre ça concret, mais c'est le Nice qu'on connaissait l'an dernier et qui est revenu à un bon niveau, Florent.
Oui, c'est une équipe qui s'est retrouvée, qui a aussi maintenant quand même un joueur comme Pléa qui commence à marquer et à enchaîner, c'est ce qui lui manquait jusqu'ici, depuis son arrivée quasiment à Nice. Et le fait qu'il puisse un peu suppléer Balotelli, qui a toujours ses hauts et ses bas, et c'est vrai que sur ce match-là c'était un peu... C'était un bas, voilà. Donc c'est vrai que c'est bien pour Nice, surtout dans cette période-là où il va falloir prendre un maximum de points parce que ça va se jouer vraiment jusqu'au bout. Avec Rennes, Montpellier sans doute et peut-être un invité surprise derrière. Mais c'est vrai que ça fait quand même aussi plaisir de retrouver Seri, Cyprien au milieu de terrain avec Lesmelou qui les complète assez bien et qui a aussi, lui aussi, j'ai l'impression, progressé pas mal. Dans la capacité à jouer entre les lignes, à bien s'orienter, à bien se retourner. C'est pas parfait encore, mais par rapport au début de saison où il était beaucoup plus emprunté, j'ai l'impression, dans ces zones-là, il a assez progressé, j'ai l'impression aussi. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, ils ont ce problème de latéraux qui se traîne un petit peu depuis le début de la saison, de toute façon. D'Albert et Pereira n'ont pas été remplacés, loin de là. Et c'est vrai que Lemarchand à gauche, il a même été... coupable de certaines pertes de balles avec des passes dans l'axe qui retombaient sur des Rennais qui étaient assez actifs au pressing en première mi-temps. Heureusement pour eux, pour Nice, Rennes n'a pas réussi à en profiter, à les mener jusqu'au bout ces actions. Mais c'est vrai que c'était une vraie problématique pour Nice en première mi-temps.
Ah bah c'était surtout intéressant de voir deux équipes essayer de produire du jeu en repartant au sol, en repartant court, en essayant de trouver les joueurs loin avec des passes qui cassent les lignes, notamment Gélin là-dessus qui est plutôt doué et qui entre dans l'équipe depuis l'arrivée de Lamouchi. Donc c'est assez rare de voir en Ligue 1 deux équipes aussi ambitieuses et avec un jeu aussi expansif. C'est pas vraiment ce qui se passe par exemple à Montpellier, Flo.
Ouais, attends, juste pour finir, parce que justement on parlait voilà, de ces deux équipes qui construisent depuis la défense, qui on va dire qui, mais qui ont des principes assez clairs dans les deux premiers tiers du terrain et peut-être pas dans le troisième. Ça se ressent peut-être sur le nombre de tirs qu'il y a eu dans le match, parce que
Ouais, seulement
Nice,
19.
voilà,
Seulement 19, ouais.
10 pour Nice et 9 pour Rennes, et c'est un petit peu la conséquence de ça, c'est-à-dire que on a deux équipes qui développent leur jeu à partir de très loin et du coup parfois bah, elles ont du mal à mener les actions jusqu'au bout et c'est aussi pour ça qu'elles sont dépendantes d'attaquants qui doivent être très réalistes. Nice Balotelli qui a fait même si c'était pas ça dimanche qui a fait une grande partie de sa saison là-dessus en mettant les buts au bon moment. Pléa qui commence à suivre et côté Rennais ben, un joueur comme Kazri qui est capable d'être décisif sur un ou deux coups dans un match et de faire la différence comme ça.
Et c'est peut-être, je vais revenir donc à Montpellier qui a fait 0-0 contre l'OM, qui une équipe qui est elle aussi en course pour les places européennes, en tout cas en Europa League. Et quand on évoque les équipes qui ont peut-être un manque d'explosivité, de talent ou des joueurs qui peuvent faire la différence dans le dernier tiers, c'est le cas de Montpellier. Et c'est aussi pour ça que tu as envie de mettre en avant le travail de Der Zakarian, c'est que malgré ça, il arrive à construire une équipe qui justement rivalise avec Nice, avec Rennes, avec Nantes, avec Saint-Etienne, à travers par contre un style de jeu complètement différent.
Ouais, Montpellier, je pense qu'il faut mettre un petit peu bout à bout plusieurs de leurs performances. C'est une équipe qui n'a perdu que deux matchs, il me semble, face au top 4, puisqu'ils n'ont pas perdu face à l'OM. Ils ont pas perdu contre Lyon pour l'instant. Je crois qu'ils vont les rejouer, il me semble.
Ouais, mais il me semble que le seul match qu'ils perdent, c'est un des matchs contre Paris, il me
Oui,
semble.
ils perdent un match contre Paris et
C'est
je me demande.
le 4-0 à Paris. Après, ils perdent en coupe, par contre, contre des gros. C'est en coupe qu'ils auraient pu aller plus loin. Ils perdent contre Lyon et contre Monaco en coupe.
Je me demande s'ils perdent pas aussi en championnat contre
Mais là, je
Monaco.
suis en train de regarder. Leur défaite, sinon, en championnat, c'est du Nantes, c'est du Dijon, c'est du Toulouse, c'est du Metz, c'est du Rennes. Tu vois, il n'y a que ça. Mais
Ouais.
sinon, voilà, c'est pas des gros.
Et c'est une équipe qui, voilà, quand tu vois quand même la défense où tu as Congrès, Hilton, Mukiele, il me semble, face à l'OM, c'est une équipe vraiment qui a été construite à partir de joueurs de Ligue 1. Autour de un leader qui est peut-être Hilton, qui est, on va dire, increvable aujourd'hui, enfin qui a l'air increvable. Une équipe de joueurs assez moyens. Alors, ils ont fait de très bonnes pioches avec Mukiele, notamment au milieu de terrain. Et il y a aussi Shkiri, toi, que tu aimes bien, il me semble.
Ouais, je suis un super joueur, Shkiri.
Mais.
Puis quand même quelques joueurs de talent, tu vois, les Jérôme Roussillon, par
Voilà.
exemple, c'est un joueur qui a amené peut-être à évoluer plus haut.
Ils ont Roussillon, Aguilar, ça a été une bonne pioche aussi côté droit. Donc ils ont fait un bon mercato tourné vers la Ligue 2, hein, puisqu'ils ont eu pas mal de recrues, ils ne se sont pas trop trompés là-dessus. Et c'est vrai que c'est une équipe, moi j'ai. Enfin voilà, c'est sûr que c'est pas très flamboyant à voir. On est loin de la préparation de Nice ou de Montpellier. Mais c'est une équipe qui connaît ses forces et qui utilise notamment beaucoup les côtés. Tu parlais de Roussillon et d'Aguilar, ça a une grosse débauche d'énergie dans les couloirs. Derrière, c'est solide autour d'Hilton et de Mukiele qui est un des joueurs, je crois, qui gagne le plus de duels dans le championnat.
Qui en dispute le plus aussi, peut-être,
Ouais,
vu
c'est
comment tous
possible,
les
ouais.
jouent.
Mais un joueur très agressif et de toute façon, dans une défense à 3, les deux stoppers gagnent souvent à pas avoir peur de sortir de cette ligne-là pour compenser des brèches qui peuvent exister au milieu de terrain, surtout quand t'as qu'un double pivot au milieu. Et moi, je trouve que c'est une équipe qui fait avec ce qu'elle peut. Hein. Comme tu le disais tout à l'heure, ils ont pas de caserie pour faire la différence. Ils n'ont pas de joueurs comme Balotelli ou Pléa devant. C'est beaucoup plus laborieux, c'est beaucoup plus travailleur avec Sio. Alors peut-être que Ikoné, qui a priori voudrait
Ah.
conserver,
Qui est très
peut-être
talentueux,
devenir.
mais qui a du mal
Voilà.
à le concrétiser sur le terrain.
Mais peut-être devenir ce joueur qui peut leur offrir beaucoup plus d'occasions, les rendre plus dangereux. Mais voilà, c'est un joueur encore jeune, je crois que c'est 96 ou 97, si c'est pas 98 d'ailleurs. Mais moi je trouve qu'on est assez sévère, parce qu'en plus sur ce match face à l'OM, certes l'arbitre a priori les aide sur une ou deux actions, mais ils ont failli enlever le match à la toute fin avec Camara qui est un peu court sur un centre, je crois, de Mbenza côté gauche, et Camara est un peu court dans la surface pour couper la trajectoire, donc ils auraient même pu enlever la victoire et faire le coup parfait. Mais voilà, avec les moyens qu'ils ont, les voir à cette position-là, les voir aussi avec, avec une différence de but positive, ce qui est assez rare dans la Ligue 1 d'aujourd'hui, ouais. puisqu'ils sont à plus 5.
Et c'est peut-être la différence aussi avec les années précédentes de Der Zakarian, notamment quand il était à Nantes, où il amenait toujours Nantes à une 10, 11e, 12e place parfois. Et par contre, il y avait une différence de but négative et surtout très peu de buts marqués. Ouais. 33 buts 2015-2016, 29 2014-2015. Alors Montpellier ne va pas non plus en marquer 50 cette
ils
saison.
Ils sont à 31 là, ouais.
Mais tu sens quand même une force collective un peu supérieure et peut-être la fraîcheur, que ce soit à Montpellier et plus à Nantes, où l'héritage tactique et romantique de Denoëx, de Suedo et tout ça est peut-être plus dur à porter pour Der Zakarian.
Après,
c'est plus simple pour lui à Montpellier de proposer des choses plus restrictives.
C'est possible aussi, oui, que on va dire l'ambiance, la paillade, etc., colle beaucoup plus à son style de jeu que l'histoire du FC Nantes. Ça c'est certain. Après, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas leur enlever. On parlait du fait qu'ils ont très peu perdu face au Big Four cette saison. C'est une équipe qui a beaucoup de matchs nuls, mais qui n'a perdu que 6 fois cette saison. Donc ça montre leur capacité à au moins faire déjouer l'adversaire. C'est assez difficile de les manœuvrer. Moi, c'est une équipe que j'arrive à apprécier. Je sais que ce n'est pas con, c'est pas toujours facile, mais voilà, avec les moyens qu'ils ont, les voir lutter avec Rennes et Nice, je trouve ça quand même assez, assez fort, et c'est une des performances de la saison, avec peut-être un peu plus bas dans le classement, ce qu'a fait Amiens.
Après, c'est peut-être aussi, Christophe, une équipe qu'on apprécie, parce qu'il y en a moins de ce style en Ligue 1 qu'il y a quelques années. Tu vois, le fait que Nice, Rennes jouent maintenant, que Saint-Etienne avec Gassé, ce soit un peu plus ambitieux, il y a peut-être moins de lassitude avec ce style de jeu en France.
Oui, c'est sûr que quand tout le monde joue comme ça, de manière plutôt réactive, et que t'as personne, disons là, ça fait un changement de style, quoi. Quand t'as une équipe qui attaque, qui essaie de créer avec le ballon, et l'autre qui va plus construire sur une base défensive et être un petit peu moins talentueuse, et qui du coup va plus fonctionner par coup de manière offensive, c'est sûr que du coup ça tranche et ça. Enfin, tu vois, si tu avais une équipe qui jouait comme ça en Espagne, on en a quelques-unes comme les Ganes ou autres, mais ça, tout de suite, ça limite, ça choque l'œil parce que tu n'en as pas beaucoup. Et donc, du coup, tiens, ça devient intéressant. Et c'est vrai que là, dans la Ligue 1, dans la Ligue 1 actuelle, il y a beaucoup plus d'équipes qui cherchent à développer quelque chose.
Comme Dijon, tu vois, que j'avais oublié de citer.
Ouais, Dijon, très offensif, parfois même presque trop, mais ça donne des matchs intéressants. On a perdu un peu plus de variété offensive avec le départ de certains entraîneurs, même si ça ne fonctionnait pas toujours. Mais disons, c'était aussi les ambitions qu'avaient Oscar Garcia et Marcelo Bielsa, qui ont été assez vite débarqués, enfin, démissionnés, l'autre licencié. Mais c'est vrai que, mine de rien, et c'est quand même assez intéressant de voir ça dans la Ligue 1 de 2018, c'est de te dire que sur le top 7, c'est l'équipe, la seule vraie équipe à jouer de manière un petit peu défensive, à bien défendre, d'être à Nantes qui est juste derrière, qui est peut-être un petit peu dans cette même philosophie-là. Mais je veux dire, sinon, toutes les équipes qui sont devant sont des équipes qui jouent à la fois parce qu'elles ont cette philosophie-là, mais aussi simplement parce qu'elles ont les joueurs pour. Je veux dire, Paris, peu importe la philosophie de l'entraîneur, dans tous les cas, Paris aura le ballon contre 95% des adversaires. Donc là, c'est vrai que ça offre une variété qui est bienvenue quand même malgré tout à l'échelle d'un championnat. Et puis, même si, nous tous, mais comme pas mal de suiveurs, on aime bien quand il y a, même pas forcément des buts, mais quand il y a du jeu, quand il y a des idées, quand il y a une ambition offensive, mais il faut aussi, pour que le football puisse avancer, évoluer, qu'il y ait des oppositions de style avec des équipes qui cherchent avant tout à défendre, et qu'on voit si l'attaque sur ces matchs-là va réussir à dominer la défense ou inversement. C'est aussi ça qui fait le charme du truc et qui permet de tester vraiment à la fois la qualité d'une défense, d'être face à des belles attaques, et aussi de montrer si une attaque est vraiment performante quand elle arrive face à des défenses à 5 qui sont bien compactes.
Et... En parlant de... Vas-y Flo.
Ouais, ouais, non, c'est juste pour boucler ça un petit peu sur Montpellier. J'ai regardé leur calendrier. Donc là, ils sont à un point de Rennes, ils ont 46 points. Et sur les 6 dernières journées qu'il reste, ils vont jouer Nice, Saint-Etienne, Nantes et Rennes. Donc 4 adversaires directs sur les 6 matchs.
Tout est concurrent.
Et donc ça va être une belle fin de saison pour eux et bah, évidemment pas mal de choses à jouer parce qu'il y a la Ligue Europa au bout, sachant que les deux autres matchs, bah, c'est Bordeaux qui vont affronter samedi, il me semble, la semaine prochaine, non dimanche pardon, à 15h, et 3 lors de l'avant-dernière journée à domicile. Donc voilà, deux matchs qui peuvent remporter, mais c'est vrai que c'est 4 matchs face à des adversaires directs, et notamment face à Nice et Rennes, bah, on aura deux belles oppositions de style. Et deux matchs qui seront sans doute très intéressants à regarder.
Non, alors, Christophe a parlé des attaques qui dominent les défenses. Ça a été le cas de l'OL en déplacement à Metz, Florent. Avec une nouveauté, en tout cas c'est le cas depuis quelques matchs, et notamment en sélection, c'est de voir Memphis Depay en pointe. Alors là, Genesio a réalisé le rêve de tous les Lyonnais depuis quelques années, c'est de remettre en place un losange. C'est un peu paradoxal parce que c'est là au moment où tu n'as plus Fekir et tu mets Marino sur le banc, alors que c'était quand même deux joueurs qui auraient pu s'intégrer dans un tel schéma. Et puis finalement, avec Aouar en 10 et Depay Traoré devant, ça a plutôt bien fonctionné, et notamment la performance du Hollandais dans ce rôle-là, qui t'a un peu rappelé un des Pays-Bas de 2014 qui t'a plu.
Bah ouais, parce que les Pays-Bas de 2014, c'était donc avec Louis van Gaal sur le banc. Alors c'était pas un losange, ou peut-être
Non,
il y avait eu des
ouais.
séquences en losange, mais c'était surtout un 3-5-2
Ouais.
dans mon souvenir. Et donc c'était Arjen Robben, ailier replacé avant-centre, et qui était un petit peu l'homme à tout faire de l'attaque néerlandaise, et qui leur avait permis d'aller jusqu'en demi-finale. Mais c'était un très bon match de la part de Depay. Alors c'est que face au FC Metz, hein, évidemment, et ça c'est faut absolument pas l'enlever, comme quand l'OM avait mis 6-0 à 3 pour la première de Mitchell,
Oui,
c'était 3
oui.
en face, quoi. Donc faut relativiser, mais c'est vrai qu'il fait son match. Quand tu finis le match de toute façon avec un but et 4 passes D, bon, certes il y en a deux sur coup de pied arrêté, mais ça en dit long sur ta performance. Et il a été très intéressant dans le sens où moi j'avais fait un de mes rares derniers papiers, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas écrit au final, entre mon voyage et ma motivation. Et un de mes derniers papiers, c'était sur un gros papier en tout cas, c'est sur l'Olympique Lyonnais. Et ce que j'avais pointé, c'était le manque de mouvement des attaquants de l'OL
Manque
qui a.
de variété des déplacements aussi au moment où la différence était faite et il restait 30 mètres à parcourir.
Exactement. Et là, c'était pas non plus assez fou, parce qu'on reste quand même avec deux joueurs qui te demandent la balle très souvent dans les pieds. Mais sur les transitions, quand tu dois ressortir la balle et que tu as une équipe adverse qui est déséquilibrée, et que tu as Depay et Traoré pour avaler les espaces, c'est sûr que là, ça fait quand même assez mal. Et Metz a pas mal ex a explosé comme ça en deuxième mi-temps, hein. J'étais devant le match, j'avais mon petit PMU à côté, l'appli, et j'ai quasiment posé des paris sur avant chaque but, en me disant ouais, ils vont forcément en remettre un. Et c'est un petit peu comme ça que je me suis refait après un week-end assez compliqué d'ailleurs. Mais
Ah, mais
bref,
t'as...
passons.
Non, mais t'as parlé de la variété des déplacements et c'est intéressant parce que enfin, c'est une théorie perso, je pense qu'elle se vérifie assez souvent, c'est que le losange en fait t'interdit des déplacements assez banals. Parce que tu peux... Enfin, tu vois, là où le 4-2-3-1 et le 4-3-3, tu vas avoir des déplacements assez classiques, déliés, qui sont soit sur le côté, soit qui rentrent intérieur en diagonale. Le losange, c'est tellement pas rare, mais t'es tellement dans des positions inédites par rapport aux autres systèmes plus classiques, que les attaquants sont obligés de se déplacer, d'être mobiles et de chercher des courses un peu plus originales pour se rendre disponibles.
Non, c'est vrai.
Parce qu'ils ne peuvent pas rester collés à l'intérieur, et en même temps, si les deux vont sur les côtés, tu n'as plus de présence à l'intérieur non plus. Donc
C'est
ça te
vrai.
force à communiquer, à te regarder et à occuper les espaces plus intelligemment et de manière enfin, plus variée que les systèmes où tu mets un ailier sur la ligne, tu lui dis vas-y, Bertrand Traoré, cours, reviens à l'intérieur et frappe, tu vois.
Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y avait, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé, malgré le 5-0, une vraie marge de progression pour l'OL à ce niveau. Parce que parfois, que ce soit Aouar pour mener l'action, ou pour voir quelle passe faire par rapport aux appels, etc., ou Depay et Traoré qui parfois avaient du mal à savoir quel appel faire, on sentait aussi qu'il y avait pas mal de choses à régler et de choses à ajuster collectivement, en tout cas dans l'animation de ces trois-là, notamment sur les séquences de transition. Mais voilà, après, bon, quand tu as un mec qui est capable de faire la performance globale que sort Depay, certes toujours face au FC Metz, mais ça te garantit au moins de prendre des points face à ce genre d'adversaire, peu importe le système. Donc c'est la base, c'est prometteur, mais il y a une vraie marge de progression, et les Lyonnais seraient mal inspirés d'imaginer qu'après ce 5-0-là, il n'y a pas mieux à faire. Il y a une base intéressante, parce que avoir numéro 10, c'est peut-être le futur de l'OL sur les 3-4 prochaines saisons, puisque peut-être qu'un joueur comme Fekir va quitter l'OL cet été, ça
Ouais,
on sait pas trop.
si tu pars de l'idée que Aouar va rester 3 ou 4 saisons à
Oui,
l'OL.
il y a ça aussi. Mais enfin, en tout cas, au moins l'année prochaine, il sera là, quoi. Ça,
Ouais.
on peut l'imaginer. Et c'est vrai que travailler quelque chose autour de ça, d'autant plus que c'est un joueur qui a le volume pour peut-être être un milieu avancé en possession et revenir dans le double pivot en phase défensive, donc avoir un 4-4 de losange quand tu attaques, mais ensuite un 4-4 de à plat quand tu défends. C'est peut-être
comme
un joueur
la,
qui a cette, qui a ce coffre-là.
Comme la Juve de l'époque.
Oui, comme la Juve de l'époque avec, avec Vidal. Mais donc, en tout cas, il a montré qu'il était capable de jouer dans un double pivot, donc pourquoi pas tester ça, sachant que c'était une solution que j'attendais avec Tolisso à l'époque, quand, la saison dernière, avant qu'il parte au Bayern. Mais donc il y a peut-être une base à développer, et peut-être que c'est ce que fait Genesio, avec, même s'ils ont la Ligue des Champions en ligne de mire, ils ont repris la troisième place. Peut-être aussi que lui prépare déjà la saison prochaine. Mais je sais que cette phrase-là va peut-être faire très peur aux supporters lyonnais, donc c'est aussi pour ça que je voulais la placer.
Ça m'inspire une réflexion. Raphaël,
oui.
Toi qui coaches des U15, avec lesquels d'ailleurs tu as été champion de Ligue de France, bravo à toi. Tu joues en 4-4 de losange. Comment est-ce que tu expliques qu'il n'y ait pas... Donc, du coup, tu as fait ce choix de choix de ce système-là.
Enfin, on donc, l'a fait c'est en deux. Hein,
oui, vous êtes deux. Mais bon, là, j'essaie de te glorifier, donc ne te rabaisse pas. Vous jouez comme ça, donc c'est que du coup, vous y voyez l'intérêt. Comment est-ce que tu expliques qu'il n'y ait pas tant d'équipes que ça? Tu en as 4-5 qui jouent en 4-4 de losange dans les 5 grands championnats. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça manque de numéro 10? Parce que tu n'occupes pas assez les côtés et qu'ils te font des beaux latéraux? C'est quoi le...
Je pense que c'est... Bah, comme l'a dit un peu Flo, déjà, il faut avoir des attaquants intelligents et qui se déplacent bien, et c'est pas forcément le cas même de l'OL qui est une bonne équipe. Après, je pense que c'est le problème principal pour les entraîneurs, c'est la couverture de la largeur en phase défensive. Je pense que c'est ce qui les effraie le plus, parce que ça fatigue très vite tes relayeurs. Alors nous, en U15, on a un avantage parfois, c'est que les terrains sont parfois plus petits que les terrains aux normes de Ligue 1, enfin de grand championnat. Du coup, tu as moins de largeur à couvrir pour tes relayeurs, mais tu laisses quand même pas mal d'espace soit à l'opposé, soit à l'intérieur quand tes relayeurs font pas les bons dépassements. Par exemple, on a joué récemment le PFC, et ils avaient clairement préparé le fixé renversé pendant 90 minutes, où ils trouvaient l'ailier, et si notre ailier n'avait pas fait le déplacement assez vite, il y avait un 2 contre 1 contre notre latéral, avec l'ailier et leur latéral qui dédoublait contre le nôtre. Donc je pense que c'est plus ça qui amène les équipes, surtout les équipes qui ne peuvent pas avoir la possession, à éviter ce système, parce que c'est quand même très rare de pouvoir défendre comme ça très bien. Et ce qui m'a étonné dans ce qu'a fait Villarreal cette saison, alors je ne les ai pas regardés ces 2-3 dernières semaines, je ne sais pas s'ils sont encore dans le même système, mais d'avoir un 4-4 de losange et une équipe qui n'est pas forcément obsédée par la possession du ballon, j'ai trouvé ça très étonnant. Mais je pense que c'est surtout ça le gros problème. Et c'est pour ça que quand Flo parlait de volume de jeu avec Vidal, ça permettait aussi à la Juve de défendre mieux sur la largeur en étant un 4-4-2 à plat sans le ballon et pas en 4-4 de losange. Enfin, si, je ne sais pas si Florent sera d'accord, mais selon moi, c'est le problème principal et peut-être la crainte principale chez les entraîneurs.
Ouais, pour moi, de toute façon, un système comme celui-là, 4-4 de losange, il n'est pas viable. Enfin, je l'imagine pas viable si t'as pas la balle. C'est pas possible.
On l'a même vu avec le Real récemment, qui savait même pas défendre comment défendre en 4-4 de losange et qui passe quand même contre la Juve, mais il y avait d'énormes trous au milieu de terrain.
Ouais, il y avait. Oui, et ça s'est rattrapé après par une énorme charnière, etc.
Mais voilà.
On pourra en parler plus tard, de toute façon.
Mais voilà. Bon, pour pas perdre trop d'auditeurs sur l'OL, parce que t'as dit du bien de Genesio, Florent, et tu sais que c'est interdit en terre lyonnaise. Enfin, dis du bien, t'as évoqué qu'il pourrait réfléchir, c'est déjà trop pour pas mal de supporters lyonnais. On a dit beaucoup de choses positives, on va passer à un autre truc un peu plus négatif avec Christophe. On va le ressusciter au passage. Oui. Et notamment la situation du LOSC qui continue de dégringoler, qui a pris 3 points sur les 9 derniers matchs. Et peut-être parce que pour le coup, justement, il n'y a pas assez de jeu et peut-être trop d'autres choses, Christophe.
Alors, déjà, faut quand même noter qu'avec un tel bilan, être encore à un point des barrages. Les deux du maintien, ça en dit très long sur l'état du bas de tableau en Ligue 1 cette saison, parce qu'en plus, cette série-là, elle vient à un moment où tu n'étais déjà pas super bien. Donc, c'est-à-dire, normalement, quand une série comme ça t'arrive et que tu es en milieu de tableau, tu tombes dans la zone rouge, et quand tu es déjà quasiment dans la zone rouge, tu es relégué. Bah là, non, Lille a encore ses chances avec 28 points en 32 matchs. Donc, là-dessus, performance est un petit peu anomalie statistique cette saison. Lié voilà, à la faiblesse de plusieurs équipes en bas de tableau, mais oui. Alors c'est peut-être une réflexion tu vois, plus journalistique qu'autre chose, mais c'est vrai que pour être régulièrement au match du LOSC et puis lire forcément tous les articles qui y sont consacrés, à l'époque de Bielsa, ça parlait beaucoup de jeux. Alors ça parlait en termes négatifs, hein, mais disons, ça discutait de sa philosophie de jeu, de sa manière d'appréhender les choses. Ça parlait aussi un petit peu de la jeunesse de l'effectif, effectivement. Mais les grandes réflexions, c'était est-ce que tactiquement en 2018, enfin 2017 en début de saison, mais voilà. Est-ce que c'est viable ou pas de faire du marquage individuel sur quasiment tout le terrain, de vouloir avoir le ballon et relancer court avec des joueurs qui ne sont pas forcément prêts techniquement pour assumer de telles responsabilités bas sur le terrain,
mais
des choses comme ça.
Contradictoire en plus, Christophe, parce qu'il enfin, il y avait deux discours qui se complétaient, mais qui étaient pour moi contradictoires. C'était à la fois c'est trop vieux jeu ce qu'il fait, c'est daté, ça marche plus, et en même temps il en demande trop à ses joueurs. Il y avait un peu les deux trucs à l'époque.
Et c'est vrai que en gros, t'as envie de dire ok, reproche, mais c'est soit l'un ou soit l'autre, quoi. Tu peux pas reprocher des trucs un peu antinomiques. Mais disons, on parlait de jeu, et moi, ça me semblait intéressant aussi, parce que du coup, ça me permettait d'écrire sur le jeu, ce qui est quand même plus intéressant que d'écrire sur l'arbitrage ou autre. Et le problème, depuis que Christophe Galtier est arrivé, c'est qu'on a arrêté de parler de jeu, et j'ai l'impression, au-delà du fait que Lille intéresse beaucoup moins qu'à l'époque de Bielsa, mais aussi pour le côté aura médiatique, etc., personnage clivant, c'est que, en fait, Lille a essayé plein de choses. Mais au niveau des systèmes, j'avais répertorié le nombre de systèmes tactiques, mais à un moment, je crois que ça avait changé 4 ou 5 semaines de suite. Galtier est arrivé en voulant annoncer absolument un 4-4-2 à plat ou 4-4-1-1 si tu avais vraiment un pur 9,5, voire limite numéro 10 derrière une pointe. Et au final, ça a basculé sur des défenses à 3, sur des 4-3-3, enfin sur un peu tout et n'importe quoi. Et à aucun moment il a vraiment trouvé la solution, même s'il y a des matchs où c'est un peu mieux. Je veux dire, contre Monaco, c'est pas mal, à chaque fois ça craque. Et dans ces moments-là, tu dis effectivement jeunesse de l'effectif, tout ça. Donc tu parles de leviers qui sont pas de terrain, mais qui sont plus dans ta gestion humaine, dans ton management, dans ton choix de joueur. Mais au final, à aucun moment, depuis que Christophe Galtier est là, et il est quand même là depuis la nouvelle année, il a même eu toute une préparation hivernale, enfin toute la trêve pour un petit peu instaurer des idées tactiques à son groupe. Et en fait, encore maintenant, le seul ressort du LOSC, c'est de changer les joueurs. C'est là de changer de gardien, de changer de latéral gauche. Bon là, sortir Faudebal Autouré qui fait une saison assez dramatique. Le pauvre, je pense qu'il va exploser le record de la pire note pour nous à la Voix des Sports. Je ne sais pas comment c'est à l'équipe, je sais qu'il y a quand même quelques joueurs, des Grégoire Puel, etc., qui ont eu aussi des saisons avec des notes très basses, mais chez nous, il est à moins de 4 de moyenne. Bon, là, il a été remplacé par Mendil, qui n'a pas été beaucoup mieux, mais tu sors Alonso pour mettre Dabila en défense centrale. Enfin, tu tentes un peu tout et n'importe quoi. Tu vas mettre Pepe en pointe, alors que tu as dit que tu ne voulais pas le mettre en pointe. Enfin, il y a une espèce de manque de continuité entre le discours et les actes sur le terrain. Et le problème, c'est qu'à aucun moment, j'ai l'impression que les gens se posent la question de savoir si ce n'était pas en instaurant un jeu très clair que LOSC et Christophe Galtier auraient pu s'en sortir. Et là, en gros, ce que lui dit, c'est « j'ai l'impression de ne plus avoir trop de leviers pour changer ça », parce que la réflexion serait finalement uniquement psychologique, de se dire « bon, j'ai été gentil, ça n'a pas marché », genre en gros, j'ai été bon flic, ça n'a pas été, j'ai été méchant flic, ça n'a pas été, j'ai écarté le mec du groupe, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi ? Sauf que, pour moi, même si forcément l'aspect psychologique joue, la première priorité, ça aurait été, et maintenant c'est un peu tard, d'instaurer un jeu très clair, de dire bon, on joue en 4-4-2 à plat, parce que c'est le système le plus fiable défensivement avec les lignes les plus resserrées, on reste là-dessus, on met un jeu comme ça en place, et puis on espère qu'à terme ça paye. Et là, le fait de tâtonner, de partir un peu dans toutes les directions, au final, t'as perdu, j'ai l'impression que tu as perdu un peu une partie de ton groupe, mais pas forcément psychologiquement. Je pense que par exemple, Thiago Mendes, tu l'as perdu footballistiquement parce que tu l'as mis ailier droit, tu l'as mis ailier gauche, tu l'as mis numéro 10, limite 9,5, alors qu'il était excellent en tant que numéro 8 avec Bielsa, voire numéro 6 dans des systèmes où tu avais le ballon et où il jouait un peu seul au milieu de terrain, où il avait beaucoup de responsabilités à assumer. Et en fait, à vouloir changer sans cesse pour en trouver la solution, t'en es venu à finalement pas avoir de vraie croyance sur le jeu. Et en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de jeu et d'identité de jeu définie à Lille, en fait, plus personne ne cherche à comprendre vraiment comment Lille veut jouer. Lille essaie juste d'être solide et d'avoir des valeurs de combat, machin. Sauf que je pense que pour t'en sortir, pour te maintenir, même si effectivement les valeurs de combat c'est important et que la jeunesse d'effectif est pénalisante et que les nombreuses erreurs défensives sont pénalisantes, si tu avais réussi à mettre Luis Araujo, Pepe, qui sont deux de tes meilleurs éléments offensifs en talent pur individuellement, si tu avais réussi à les mettre en bonne condition et à t'appuyer sur Thiago Mendes, qui est ton meilleur joueur individuellement dans l'entrejeu, je pense que tu aurais pu t'en sortir et tu ne serais pas dans cette situation-là. Et mon monologue, c'est vrai que ça me déçoit un peu, parce que là, en gros, on a un peu arrêté de parler de foot, en fait. Et j'ai l'impression qu'on parle de leadership, de management, et qu'on est plus dans la gestion d'une boîte que dans une situation de crise, que vraiment dans le fait de parler de terrain et de ballon, quoi.
Non, pour faire un petit point sur le bilan de Galtier, de Lille depuis l'arrivée de Galtier, c'est 13 matchs, 9 points pris. Donc c'est la deuxième pire équipe de Ligue 1 sur cette période-là, derrière 3. En termes d'expected goals, c'est confirmé puisqu'ils sont à 10 expected goals en faveur et 20 contre. Donc tu vois, rien de surprenant. Même si ça avait pointé du doigt parfois le manque de réalisme et la malchance ou des erreurs individuelles, c'est un bilan qui est fidèle à la réelle qualité de l'effectif. Ce qui est inquiétant, c'est que ni la méthode Bielsa ni la méthode Galtier, qui sont différentes, n'ont fonctionné. Tu vois. Donc,
après, il aurait peut-être fallu trouver un juste milieu, quoi.
Oui, non, mais c'est
quand
clair.
Tu
oui.
fais, quand tu fais 4-5 mois avec Bielsa, passer à Galtier derrière. T'es pas obligé de prendre un Sampaoli, enfin un mec qui va jouer faire un peu comme du Bielsa, mais tu peux peut-être trouver une transition et pas partir sur Galtier qui va passer 2 mois non pas à essayer de changer les choses mais à défaire ce qui a été fait avant, quoi. Et voilà, si tu pars dans une direction, tu peux changer de route sans faire forcément demi-tour, donner un grand coup de frein et repartir dans l'autre sens, parce qu'en gros ça veut dire que t'as perdu ton temps et que tu dois tout refaire différemment, quoi.
Comment toi qui couvre l'OSC de très près, est-ce que tu alors on sait qu'il y a les soucis sportifs, administratifs, est-ce que tu penses que sportivement ils peuvent s'en sortir?
Bah, le problème, c'est que, enfin, il y a bien un moment où il va falloir quand même gagner des matchs, mais 3 est tellement mauvais et j'ai l'impression que, pour l'instant, c'est-à-dire que 3 a fait une saison nulle, mais en ce moment, c'est vraiment très très compliqué. Et de ce que j'en vois, j'ai l'impression que Jean-Louis Garcia est aussi un peu en train de. Je sais pas, perdre son groupe, parce que c'est un mot un peu fort pour quelqu'un qui ne suit pas le truc de près, mais quand je vois ses discours, j'ai l'impression que lui aussi est un petit peu à court de solutions, qu'un coup il accuse les joueurs, un coup il accuse l'arbitre. Enfin, il a un peu l'impression qu'il est démuni. Et c'est vrai que cette situation-là, plus Toulouse qui n'est pas au mieux non plus, tu dis il y a quand même moyen de doubler l'une des deux équipes si t'es pas trop mauvais. Mais il y a quand même un moment où il va falloir gagner des matchs. Et là, honnêtement, enfin, je sais pas, je t'avoue que si tu avais installé un truc très, très cadré, je dirais, bon, bah, comme avec Bielsa, tu vois, d'une semaine sur l'autre, tu voyais des améliorations, tu voyais ce qui allait pas, mais tu sentais quand même un truc vivre, quoi. Et tu disais, oui, effectivement, si tu enlèves, alors c'est bizarre de dire si tu enlèves l'erreur individuelle, mais il y a pas mal de matchs, si tu enlèves l'erreur individuelle, tu dis, franchement, le contenu est pas trop mauvais, ok, tu perds, mais tu vois ce que l'équipe a cherché à faire. Et la semaine suivante, si elle améliore un peu ci, si elle change un peu ça, ça va aller. Là, il n'y a pas de continuité d'une semaine sur l'autre, donc c'est quasiment impossible à prédire, parce que tu peux avoir un visage très solide, très cohérent, comme contre Monaco, où tu as une mi-temps qui est très très bonne, et tu peux avoir d'autres rencontres, où c'est enfin, la première période contre Amiens, c'est limite dramatique, quoi. Et c'est aussi un peu le cas, c'est un peu lié à la jeunesse de ton effectif, mais je pense que le fait de pas avoir de système tactique défini, de pas avoir de 11 défini où tu changes beaucoup de choses parce que tu es encore dans le tâtonnement, fait que tu n'auras jamais de linéarité jusqu'à la fin de la saison. Donc, j'ai du mal à prévoir ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, alors je comprends le discours de se dire on va pas descendre, on va se maintenir, parce que tu peux difficilement dire le contraire dans ta situation, mais les clubs trop bons et les effectifs trop bons pour descendre, ça n'existe pas, quoi. Et il y a des équipes bien supérieures en talent à ce qu'a le LOSC qui sont descendues. Je pense notamment à Saragosse, une année où Saragosse était européen et était descendu avec une équipe remplie d'internationaux, tu as des Rulio Baptista, etc. Je veux dire, des catastrophes industrielles pires que le LOSC qu'il y en a eu. Donc, à un moment, ça va finir par tomber quand même, quoi.
Avant qu'on passe à l'Angleterre, il y a juste le calendrier du LOSC d'ici la fin du championnat. Guingamp, Marseille, Metz, Toulouse, Dijon et Saint-Etienne. Alors, le match à Toulouse le 6 mai peut être décisif dans cette course-là, mais c'est vrai que les matchs à Marseille ou à Saint-Etienne, on les voit difficilement empochés par le LOSC. Après, c'est les matchs contre Metz, Guingamp, Dijon et Toulouse qui vont être décisifs, et surtout ce match à Toulouse le 6 mai, hein, 36e journée, qui va être décisif.
Ouais, ben, l'enchaînement Metz-Toulouse, ça, voilà, si tu prends 6 points là, si ça se trouve, ça peut, vu à
Ça
la
peut
vitesse à
suffire, ouais.
laquelle ça avance derrière, ça peut suffire peut-être pour être barragiste, puisqu'a
Après,
priori ce serait l'objectif fixé de
le
finir
LOSC en
18e
barrage,
et de se sauver sur la double confrontation.
Le LOSC en barrage, vu la performance cette année et le manque de soutien ou le manque de solidarité dans les différentes sections du club, c'est pas forcément rassurant.
Le seul truc, c'est que l'équipe de Ligue 2 qui arrivera en barrage aura dû affronter 150 matchs avant d'être là. Et, enfin, disons, c'est quand même tout est fait pour favoriser le club de Ligue 1. Donc, avec un peu de chance, tu peux tomber, mais que ça soit Lille ou une autre équipe, hein, contre une équipe de Ligue 2 qui sera complètement crevée à bout de souffle, ça peut maximiser tes possibilités, même si du coup, tu arriveras face à une équipe en confiance.
Lorient est quand même descendu la saison passée, malgré ce dispositif. Passons à l'Angleterre, la Première Ligue avec un choc en Première Ligue ce week-end. Alors, il y avait le derby Everton-Liverpool, pas forcément intéressant, donc on évitera de l'évoquer. Mais il y avait surtout le derby de Manchester où City pouvait être champion. Il avait très bien démarré la rencontre. Et puis ensuite, patatras, un peu le scénario qu'on avait évoqué, notamment sur le mental de cette équipe quand elle était mise dans la difficulté. Christophe, tes paroles de la semaine dernière ont été complètement validées par ce scénario improbable, parce qu'on ne voyait pas du tout comment United pouvait revenir après la première période.
Ouais, alors déjà, ça m'a fait plaisir quand même que ce match suive celui de Liverpool, parce que c'est vrai que Liverpool, tu as dit, c'était très compliqué, et Ings, Solanke, ouais. On avait un petit peu de mal à voir ce que ces joueurs-là faisaient au plus haut niveau. Mais c'est vrai que City mène 2-0 à la pause contre United, et au-delà du score, c'est le fait que c'est les deux buts, ça soit deux des moins grosses occasions de City sur ce match-là, quoi. T'as un enchaînement, enfin t'as une tête sur corner et un enchaînement roulette pointue de Gundogan, mais t'as Sterling qui rate de face à face, t'as une tête je crois aussi de Gundogan juste avant la pause à seul à 6 mètres qui l'envoie dans les bras de derrière. Et au-delà des occasions qui témoignent de quelque chose mais qui parfois peuvent être trompeuses quand elles ne naissent pas d'action construite, là c'était vraiment le faux numéro 9. Alors d'abord Bernardo Silva, ce qui n'a pas du tout marché, ensuite Raheem Sterling assez vite qui a permuté avec lui, et Bernardo qui a pris le côté droit, et Sterling en fait à chaque fois il reculait vraiment, ça laissait Bailly et Smalling sans vraiment quelqu'un à marquer, même si Sané ou Gundogan des fois pouvaient évoluer un peu dans la zone. Et ensuite t'as Sterling qui soit grattait les ballons, soit arrivait lancé depuis une position très reculée, et qui avec sa vitesse arrivait face à des défenseurs qui étaient à l'arrêt, et du coup il bénéficiait de gros espaces. Et tu rajoutes un énorme travail de Fernandinho au milieu, t'as vraiment une domination totale de City. Et de ce que disaient les tweets de journalistes anglais présents au match, la grande discussion de certains lors de la mi-temps, c'était pas de savoir si City allait gagner et donc être champion, c'était de savoir quel score pourrait pousser Mourinho à une démission, quoi. Parce qu'on était sur, si ça se termine à 5-0, parce qu'à la mi-temps, ça peut bien faire 3 ou 4 sans problème, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le poste de Mourinho est en danger ou pas? Il se trouve que 45 minutes plus tard, c'est ce qui donc était formulé à l'époque sous forme de tweet, c'était tout de suite un peu ridicule, parce qu'effectivement, le score a été complètement inversé. Deuxième période bien meilleure de Manchester United, dans le combat, dans l'agressivité déjà, même si le pressing était un petit peu désordonné. Bah, rien que le fait de vouloir mordre dans la balle, de vouloir aller chercher son adversaire, même si c'est parfois un peu fait n'importe comment, ça peut suffire à mettre un peu de doute. Et surtout que City est une équipe, on l'a vu contre Liverpool, mais même j'en ai fait un article là sur les cahiers aujourd'hui, sur quasiment toutes les autres défaites cette saison, les buts pris ont été dans des périodes très rapprochées. Contre le Shakhtar, ils en prennent 2 en 6 minutes. Pareil, le match perdu contre Liverpool en championnat, ils en prennent 3 en 10-15 minutes. Et en fait, les buts pris par City, ils arrivent souvent, en gros, City prend un but, derrière veut continuer à relancer de manière propre, sauf que l'adversaire, porté par sa dynamique, va aller chercher beaucoup plus haut. Et ce pressing-là, qui donc, comme je le disais, n'est pas toujours parfait. La preuve, c'est que United n'est pas habitué à presser, parce que United ne sait pas le faire, et dans des situations de match un peu plus calmes, comme contre Séville, où le tempo est plus posé, bon, on a vu que ça ne marchait pas. Bah là, le fait vraiment d'aller à bloc sur 10-15 minutes, ça a fait un petit peu paniquer City, qui a raté ses relances, qui a balancé les ballons en touche, qui a vraiment paniqué. Et tu as deux buts de Pogba coup sur coup en 2 minutes, alors que Pogba fait une première mi-temps dramatique. Et à la limite, presque bravo à Mourinho d'avoir laissé sur le terrain, parce que sur le coup, c'était pas forcément évident. Tu pouvais être tenté de lancer un McTominay à sa place ou autre. Derrière, tu as le troisième but de Smalling, et puis ensuite, l'orage est passé. United recommence à défendre, et là ensuite, c'est soit la maladresse, soit la malchance, soit les arrêts d'Era qui empêchent City de revenir. Mais le problème, c'est que tu prends 70 minutes, on va dire, de la rencontre, ont été bien dominés par City, dont 30-40 où c'était vraiment fort à la mot sur le but de United. Sauf que si tu as 10, 15, 20 minutes où tu es totalement incapable de gérer la pression et que tu paniques balle au pied et Otamendi a fait du Otamendi, à savoir je relance très bien sous quand il n'y a aucune pression et sous puis, pression je perds mes moyens, on l'a vu aussi en sélection. Bah, tu,
Quand tu parles de pression, tu parles plus de limite de pression du score que de pression de.
Bah, il y a les deux en fait.
C'est, fin, oui, mais j'ai l'impression que lui, il est, quand, il
ouais,
est,
lui
quand
aussi,
l'équipe
Olivier.
mène, tu vois, il est capable de se dépasser et de proposer des séquences à la Boateng, mais par contre, quand son équipe est mise en difficulté, quand il y a une relance qui a été ratée, bah, ensuite, tu vois, c'est tout un château de cartes qui s'écroule presque.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu des deux. Il y a un, le côté psychologique, genre mince, mince, mince. Mais c'est pas le seul, hein, je veux dire, des Delph, des Fernandinho, parfois tu les sens un petit peu abattus presque par le score quand ça commence à mal tourner. Mais c'est vrai que là, à 2-1, enfin, quand, moi c'est ce que je disais, là, on avait notre conversation en parallèle en regardant le match, quand ça passe de 2-0 à 2-1, je suis quasiment sûr que, je dis ça va tester le mental de City, mais je suis quasiment sûr qu'il y aura le 2-2 très vite. Et tu vois que ça rate une ou deux relances et tu dis, ok, ils sont un peu sortis de leur zone de confort. Et il panique. Et ça, c'est une caractéristique qu'on a par très rare séquence, mais qu'on a parfois vu aussi avec le Bayern de Guardiola. Et la seule fois où Guardiola était vraiment à l'abri de ça, mais je pense aussi parce que l'habitude de jeu, de jouer au sol et de contrôler ça, c'était à Barcelone, quoi. Aussi, peut-être parce que tu avais un Puyol qui, du coup, te recadrait, te remontait le moral et t'empêchait de paniquer. Et parce que je pense que tu avais plus de qualité technique individuelle qui fait que quand tu donnais le ballon à Busquets, ça te faisait une soupape de sécurité et tu pouvais paniquer. Bon, ça allait quand même. Mais c'est vrai que là, c'est quand même inquiétant pour City. Là, en fait, la saison va limite se terminer en eau de boudin alors que tu auras quand même un titre de champion qui arrivera dans une semaine ou
Ouais, et
deux
puis
grand maximum.
t'as gagné une coupe.
Et
Enfin, c'est.
la League Cup, ce qui est quand même un bilan pas trop mal. Mais en fait, tu vas terminer en queue de poisson. Là, le derby, c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais les limites que tu as vues là sur ce match, quand tu auras la pression de Liverpool, qui arrivera forcément par séquence, même si Liverpool, je pense, défendra bas, si tu as 1, voire 2-0, et que Liverpool, se dit, bon, bah, on va aller presser pour, voire même 3 ou 4-0, et que du coup, tu es en position de te qualifier et que tu obliges Liverpool à presser et à sortir. Bah, rien ne dit que la même chose ne va pas se produire. Donc, si tu as besoin à chaque fois d'avoir 4-5 buts de marge pour vraiment être tranquille, c'est quand même embêtant.
Ouais, bah, Flo, c'est vrai que quand on voit les échecs de Guardiola, en tout cas les plus récents, peut-être à l'exception du match du Bayern contre le Real où il
Atlético
prévoit.
aussi,
Ouais, mais
c'était différent.
enfin,
Mais
j'allais dire que beaucoup de grosses défaites ou d'échecs sont vécues, comme l'a dit Christophe, sur des séquences très courtes, où en fait les
rappelle-toi le
conséquences
Barça-Bayern.
sont. Ouais, bah c'est ça, ouais.
Voilà,
Ou sur les.
Barça-Bayern, c'est en 3 minutes, Messi met 2 buts.
Ouais.
Et il y a justement des erreurs de relance. Je crois que c'est Bernat qui fait une passe interceptée ou qui rate quelque chose. Et ça revient très vite et ça fait 2 buts. Et après, Neymar met le dernier en contre-attaque. Et donc voilà, c'est l'exemple qui a popé dans ma tête quand Christophe a parlé des échecs du Bayern de Guardiola.
Mais
C'est
même le
aussi.
4-0 contre le Real, hein, c'est un doublé de Ramos en 4 minutes. Hein.
Ouais.
Ouais, mais
Tu vois,
enfin, ça peut être une. Quand tu vois que ça se répète dans le temps et quel que soit le club où se trouve Guardiola, ça peut être aussi une piste à l'avenir pour les mecs qui vont l'affronter sur des séquences courtes, parce que sur tout un championnat, c'est difficile de lui faire vivre autant de défaites, mais sur des Coupes d'Europe, parce que c'est. Tu vois, une fois que ça a été décelé, est-ce que
Mais
ça peut
c'est
pas du
sûr.
coup. Tu vois, enfin, c'est plutôt inquiétant sur le long terme pour un coach qui pourtant arrive à installer une identité de jeu très claire, à apprendre beaucoup de choses à ses joueurs. De payer le prix d'un manque à chaque fois sur des périodes très courtes, quoi.
Bah, ouais, de toute façon, je crois que c'est Guardiola lui-même qui, à un moment donné, parlait de la difficulté à gérer temps fort, temps faible, et la difficulté à résister à ces temps faibles en Ligue des Champions. Je crois que c'est lui qui en avait parlé ou s'est évoqué dans la Métamorphose, il me semble. Et que c'était sans doute la chose la plus dure à faire. Et c'est vrai que moi, je pense que Liverpool l'a senti sur le match aller, parce que quand tu vois le match retour, enfin, l'a senti sur le match retour de Premier League, et quand tu vois le match aller de Ligue des Champions, il y a vraiment un avant après le premier but. Ça, c'est, on en a parlé la semaine dernière. C'est évident, c'est sur les premières minutes du match. City est plutôt bien dans son projet, ils sont pas trop pressés, ils s'en sortent en tout cas assez bien. Ils arrivent à mettre Sané en bonne position plusieurs fois. Bon, après, Sané n'arrive pas à convertir et à mener l'action à terme, mais ça fonctionne. Et c'est vrai qu'après le premier but, de suite, tu sens de la panique. Moi, j'ai un exemple en tête depuis que j'avais revu le match et séquencé. C'est un long ballon où Otamendi est pas pressé, il a tout le temps de remiser de la tête et de la redonner à Ederson pour repartir sur une séquence de possession. Et là, il décide de faire un retourné un petit peu, qui part un peu n'importe où, et c'est un joueur de Liverpool qui l'apprend. Je crois que c'est soit Mané, soit Milner, et ensuite ça devient une attaque rapide de Liverpool, et Otamendi est obligé de faire faute à 30 mètres de ses buts, et ça donne un coup franc dangereux. Et ça, c'est l'exemple parfait d'une équipe qui, ou en tout cas de certains joueurs, c'est peut-être pas le cas de tous les joueurs, mais là pour le coup, on parlait d'Otamendi, et là c'est malheureusement pour lui, ça tombe encore sur lui. Et qui, dès que ça se passe mal, bah, oublie les principes initiaux. Et du coup, bah, ça casse quand même beaucoup de choses. Parce que si en plus, ces joueurs-là qui oublient les principes de base du jeu de Guardiola, ce sont ceux qui sont à la base du jeu, justement, c'est-à-dire les défenseurs, et ben forcément, derrière, ça devient beaucoup plus compliqué pour reprendre du contrôle et retrouver de la maîtrise, quoi.
Ouais, bah, c'est un bilan qu'on avait déjà fait et qu'on refera peut-être après le match retour. Après, Guardiola a toujours été très bon pour préparer des matchs retour avec un score à rattraper. Donc, on verra ça dès demain soir, dès mardi, lors du Liverpool-Manchester City. Manchester City-Liverpool plutôt. Passons à d'autres équipes qui sont concernées par la Ligue des Champions cette semaine et qui ont joué ce week-end des matchs importants. C'est l'occasion aussi de placer nos petits paris PMU. Christophe, tu vas commencer. Tu voulais parler du FC Séville. Battu
Oui.
2-1 par le Bayern à l'aller malgré une bonne performance, et puis qui s'est écroulé en championnat cette semaine avec une habitude un peu qui va de Guardiola à Séville, c'est de craquer dès qu'il y a un but qui est encaissé et de perdre un peu les pédales.
Ouais, Séville qui est d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est un record, mais qui va être l'une des équipes bien classées avec la pire différence de but en Europe, puisque là Séville est 7e, mais avec une différence de but de moins 11. Avec c'est vrai une grande spécificité qui est propre à ce club-là, c'est que quand ça tourne bien, bah, ta possession. Mais c'est assez proche finalement de Manchester City, avec des principes un peu moins aboutis, mais le même travers de totalement craquer sous pression. Sauf que pour Séville, c'est un petit peu plus sur la durée. C'est-à-dire que vraiment, au-delà des aspects techniques, tu as aussi un aspect psychologique. Et voilà, ils prennent 5 buts contre l'Atlético, 5 contre Eibar,
La 4
5
contre le
contre le
Celta
Betis.
samedi.
Et donc là, 4 contre le Celta. Et en deuxième période, bon, Iago Aspas leur met un triplé, dont 2 buts en 3 minutes. Et en fait, Séville est vraiment sorti de ses principes de jeu en voulant forcer, en fait. C'est-à-dire que là, c'est même pas que le Celta Vigo a mis une pression excessive. C'est vraiment que Séville, qui dominait le match, qui avait la plupart des occasions, qui prend un but sur un CSC en fin de première période, mais qui continue encore à plutôt dominer en début de seconde. Séville prend le deuxième but et ensuite ça veut vraiment forcer les relances, quoi. C'est les joueurs, genre
C'était déjà le
Sarabia
cas
par exemple.
contre l'Atlético, il me semble, où c'était des relances un peu ridicules qui avaient amené à une telle défaite.
Oui, c'est ça, tu as l'impression qu'en fait, sous la pression, il y a des équipes qui du coup vont sortir de leur plan de jeu, c'est-à-dire qu'au lieu de relancer court, elles vont dire bon bah c'est tout, ça marche pas, on arrête, on balance en touche. Et là au contraire, des joueurs offensifs vont encore plus reculer pour réclamer la balle, notamment Sarabia qui est ailier droit, qui sur l'un des buts encaissés, l'un des buts d'Aspas, revient quasiment en position de numéro 6, reculé pour toucher la balle très rapidement. Et en fait, ça devient presque une caricature de jeu. Et c'est le gros problème de cette équipe-là. Alors, je ne sais pas à quel point c'est uniquement psychologique, à quel point c'est un truc qui est lié aux équipes de possession, qui en fait n'ont pas forcément l'habitude de jouer de manière défensive et de se battre et d'être dans ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté un peu combat, genre on doit se battre, on doit mettre de l'impact dans les duels, parce que de base, tu as la possession et en fait, tu es plus sur un aspect création que destruction du jeu adverse, et que du coup, tu n'as pas forcément le réflexe d'aller à l'épaule ou autre, mais que tes préoccupations sont comment tenir le ballon. Mais c'est vrai que quand je vois la facilité avec laquelle Séville a donné des buts, et c'est vraiment pas la première fois, et quand je mets en plus ça en parallèle avec les difficultés en deuxième période face au Bayern, où en fait le premier but, et les joueurs l'ont dit, le premier but a vraiment totalement coupé les jambes, et vraiment psychologiquement ça leur a fait mal, ce qui est quand même un petit peu étonnant, parce que tu te dis, bon, enfin, prendre un but contre le Bayern, c'est quand même un truc qui a pu être prévu dans l'avant-match. Et finalement, passer de 1-0 à 1 partout, c'était pas non plus la fin du monde. Et c'est pour ça que moi, sur mon petit pari, sur mon premier des deux paris, on va faire deux paris chacun avec Florent, c'est d'imaginer qu'il y ait 3 buts ou plus en deuxième période face au Bayern, parce que donc c'est coté à 2,45 chez PMU. Parce que clairement, j'imagine Séville capable, au moins, même si ça risque d'être difficile et que Séville risque d'être acculé, j'imagine Séville capable de quand même mettre son jeu en place, de faire tourner, de poser le truc. Mais en deuxième période, si ça tourne mal, ça peut très vite s'enchaîner. Et puis, Enfin, là, le Celta en met 3 en deuxième, mais il y a un face-à-face qui est raté, ça peut faire 5, voire 6 à 0. Et en fait, Séville n'arrive jamais à passer dans une espèce d'état d'esprit psychologique où tu dis, bon, allez, c'est bon, là, le match, il est perdu, on arrête, on évite que la fessée ne soit trop lourde. Et ça, limite, cette équipe-là, à 2-0, va se dire, bon, on préfère perdre 5-1, mais au moins pas être sorti notre plan de jeu et au moins avoir marqué un but, plutôt que de changer son approche. Donc j'imagine qu'en plus, avec la force de frappe du Bayern, il puisse y avoir, même si la première période est équilibrée, il puisse y avoir pas mal de buts en deuxième période.
Sachant que le 3 buts ou plus, c'est quelle que soit l'équipe, hein, faut préciser.
Oui, c'est ça. En plus, oui. C'est-à-dire que Séville peut très bien marquer, en prendre 2 ou 3. Quoi. Ça me paraît peut-être pas déconnant que Séville perde 4-1, quelque chose comme ça, avec un 0-0 ou un petit 1-0 à la pause pour le Bayern. Et justement, côté Bayern, j'ai aussi vu... J'ai vu une partie du match, j'ai pas vu toute la rencontre du Bayern. Bayern qui, une nouvelle fois, était pas mal embêté en championnat par Augsbourg. Enfin, pour Augsbourg, une nouvelle fois pas mal embêté en championnat. Ce coup-ci, donc, c'était Augsbourg qui mène assez rapidement 1-0 sur un but un peu gag contre son camp de Süle. Et Augsbourg qui avait les meilleures occasions. Et finalement, Augsbourg qui, comme souvent les adversaires du Bayern, finit par en prendre pas mal et qui perd 4-1. Un match qui, pour le coup, était jusque-là plutôt équilibré, donc voilà, des scores qui tournent quand même régulièrement en faveur du Bayern, même quand les matchs sont plutôt équilibrés. Et sur ce match-là, ça m'a rappelé, il marque un but, il fait une passe décisive, ça m'a rappelé, même s'il n'y a pas forcément besoin de rappel, que James Rodriguez était vraiment en énorme forme, et je l'imagine vraiment bien.
Malgré ses affaires extra-conjugales, enfin, conjugales et extra-conjugales, on va dire.
D'accord, bon, tu connais mieux sa vie privée que moi. Mais en tout cas, quand tu vois son entrée en plus sur le premier match pour remplacer Vidal blessé contre Séville, il a vraiment contribué à changer le match parce que du coup, il était un peu en meneur reculé, fuyant entre les lignes. Et Séville, qui a son double pivot, Nzonzi Banega, ne savait pas trop comment le gérer parce qu'il se baladait un petit peu toujours dans la zone entre ces deux joueurs-là et la défense sévillane. Et donc, en plus, en étant en ligne, avec ma goleada et le fait que j'imagine qu'il y ait quand même pas mal de buts dans ce match-là. J'imagine bien Rames buteur, côté à 2,60. Il n'a pas tellement marqué cette saison, mais je crois que si je ne dis pas de bêtises, il doit être sur 4 buts et 7 passes décisives, ou 3 et 7 sur ses 7 derniers matchs. Donc vraiment grosse forme, grosse série, en plus très bonne capacité à tirer de loin. Et sachant qu'il y a de gros problèmes de gardien à Séville, puisque Rico a été sorti, du 11 et qu'actuellement c'est David Soria qui joue et que David Soria a fait une grosse brode contre le Celta. En fait, je ne sais même pas si Montella sait vraiment quel gardien il va utiliser. Et en tous les cas, tu n'en as aucun des deux qui est en confiance. Donc, une petite frappe lointaine de Rames, ça peut très très bien arriver.
Bon, restons en Espagne, mais passons à Flo désormais qui a vu le Real. D'ailleurs, je l'ai vu aussi contre l'Atlético Madrid. Alors, un derby qui était un peu dégueulasse ces dernières années à chaque fois. Qui a été un peu mieux, je trouve, cette fois-ci. Ouais. Pourtant, j'ai trouvé, en première période, j'étais toujours sur le même constat, c'est horrible, il n'y a rien de proposé. Et puis, finalement, quand ça s'est un peu réveillé avec le but de Ronaldo, puis celui de Griezmann, il y a 5 minutes entre les deux buts.
Ouais, ça allait assez vite.
Ça a commencé à jouer en plus, un peu plus, et puis le fait qu'il n'y ait pas tellement d'enjeux pour les deux équipes a peut-être aidé aussi.
C'est-à-dire ouais, ça, pas, c'était assez ouvert, vois, en fait, en deuxième mi-temps.
Ça les a amenés à se projeter plus qu'ils ne faisaient lors des derbys précédents qui étaient très fermés.
Ouais, les deux équipes se sont un peu lâchées. Et on a vu un Atlético, notamment sur le but de Griezmann, capable de belles séquences avec du jeu court, avec des échanges très, très techniques dans des petits espaces entre Griezmann, entre Saúl, entre Costa, entre Coquet, okay, et aussi. Il m'en manque qu'un. Il y a Correa aussi qui est rentré en fin de match, qui a apporté un peu de vitesse. Et c'est vrai que face à ça, le Real a eu quelques soucis. Évidemment, il y avait Ramos et Varane pour couper pas mal de situations.
Et
Keylor Navas, ouais, qui fait un énorme arrêt face à Coquet, je crois, à un partout en deuxième mi-temps. Mais donc, sur ce match-là, c'est vrai que l'Atlético a fait de belles séquences. En face, le Real a... on va dire, était dans sa première configuration, c'est-à-dire son 4-4-2, la configuration quand Zidane fait tourner avec un double pivot et Asensio Vázquez sur les côtés derrière deux attaquants. Là, un Real qui avait assez peu de maîtrise quand même, hein, sur le match. Ça se passait surtout dans le camp, en effet, du Real, mais c'est vrai que sur les sorties de balles de l'Atlético, il y en a eu plusieurs dangereuses qui ont été gâchés par, par un bon retour d'un défenseur ou par Carvajal aussi qui a fait un gros match au niveau du repli défensif. Plusieurs séquences très très fortes de sa part. Mais donc au final, un Real qui fait un match correct, qui a retrouvé beaucoup de maîtrise par contre quand Isco et Modric sont rentrés en fin de match. Et du coup, j'imagine que face à la Juve, ces deux-là vont être aussi dans la partie. Et je pense aussi qu'en face, la Juve qui... Alors certes, le Real sera privé de Sergio Ramos, qui est monstrueux en Ligue des Champions cette saison. Mais en face, la Juve n'a pas Dybala, qui, on en parlait la semaine dernière, est peut-être leur seul joueur capable de créer quelque chose. Certes, il y a Higuain devant pour finir le travail. Mais dans l'aspect créatif, dans l'aspect... changement de rythme dans les 30 derniers mètres et pour créer quelque chose à partir de rien, ils ont quasiment que Dybala, en tout cas quand Douglas Costa n'est pas à son niveau.
Higuain n'a pas le côté Diego Costa.
Voilà, de créer une action tout seul.
Voilà, il va avoir un contre 1, avoir un contre 2 sur 20 mètres et par la force, par la puissance, il va se créer une position de frappe.
Voilà, exactement. Et en plus, c'est pas face à Varane ou Ramos qu'il va pouvoir les avoir.
Le remplaçant de Ramos qui sera par contre la surprise du chef parce que le Real ne peut plus compter sur Nacho qui est blessé.
Ouais. Bah, ce sera peut-être le jeune Vallejo, là.
Ce sera un jeune ou un repositionnement un peu loufoque.
Mais bref, malgré ça, malgré cette possible improvisation en défense, j'imagine bien le Real contrôler ce match retour, notamment évidemment autour de Isco et Modric qui font une super entrée face à l'Atlético. Je les vois bien continuer sur cette lancée au retour. Et donc, il y a le premier pari, ce serait un Real qui gagne sans prendre de but. C'est coté à 2,60, ça me paraît être une bonne cote, ça me paraît être assez bien payé. Donc voilà pour la première, voilà pour les raisons que j'ai évoquées, même si ça va y avoir une découverte en défense, je pense que la Juve n'a pas les armes aujourd'hui de toute façon pour bousculer ce Real-là. On l'a un peu vu à l'aller où Varane et Ramos ont rattrapé beaucoup de situations. Sans Dybala, ça sera encore plus dur de s'ancrer à mon avis.
Et Casemiro sera frais, il n'a pas du tout joué contre l'Atlético.
Casemiro sera frais en plus pour compenser les brèches qui pourront être créées. Donc voilà, un Real vainqueur sans prendre de but. Ça, c'est pour la première étape. Ensuite, il y a plusieurs possibilités, mais le doublé de Ronaldo en Ligue des Champions et face à Buffon, ça paraît presque... Quand c'est coté à 3, ça paraît presque donné, donc ça peut se tenter. Il y a aussi le Real Madrid vainqueur des demi-temps, c'est-à-dire un Real qui contrôlerait la première mi-temps et qui mettrait un but par Ronaldo, par exemple, sur une action un peu construite avec Isco dans les 30 derniers mètres, etc. Un petit peu comme au match aller, en fait, hein, l'ouverture du score. Voilà, c'est une action que Isco développe sur l'aile gauche et puis Ronaldo finit dans la surface. Et puis peut-être un Real vainqueur aussi en deuxième mi-temps, grâce à des joueurs qui entreraient en jeu pour apporter un peu de fraîcheur, du Vasquez, du Asensio, pour mettre un deuxième ou un troisième but. Voilà un petit peu le scénario que j'imagine, comme Christophe imaginait un 4-1, un petit peu pour le Bayern face à Séville, un 2 ou un 3-0 du Real face à cette Juve, sans forcément faire un très grand match, mais en contrôlant la majeure partie du temps la rencontre, ça me paraît être un pronostic assez, je vais pas dire fiable, mais on va dire assez logique par rapport à ce que montrent les deux équipes sur les dernières semaines et surtout sur la dernière semaine, vu que la Juve aussi ce week-end a quand même eu du mal face à Benevento. Et bon, certes, elle a fait tourner aussi, mais elle a quand même eu besoin d'un triplé de Dybala pour s'en tirer face à Benevento.
Elle a surtout pris un but de Cheick Diabaté, voire
doublé,
je crois.
Un doublé. Donc voilà, c'est ça aussi qui est très important. Ronaldo doit absolument, dans la course au Ballon d'Or, répondre à Diabaté. donc il va, je pense qu'il va au moins en mettre deux, voilà.
Et t'avais une des petites wildcards.
Ouais, la petite wildcard parce que il a tenté une frappe du droit qui a fini sur l'arête de d'Oblak en première mi-temps. Et puis il est toujours chaud en Ligue des Champions. La petite wildcard Marcelo côté à 11 dans un match où peut-être que la deuxième mi-temps sera un petit peu, les deux équipes lèveront peut-être un petit peu le pied. Peut-être que lui se fera plaisir.
Fin de five, quand il n'y a plus rien à jouer.
Ouais, voilà. Il en a déjà mis des comme ça. Et pourquoi pas le voir en mettre un en fin de partie de cette manière-là. Ouais. Côté à 11, en tout cas, ça vaut le coup de tenter, quoi.
Ouais. Bah écoute, vu notre talent en preview, tout ce qu'on fera, c'est faire perdre beaucoup d'argent aux
Ouais.
gens.
Et on
Après, tu viens de
essaiera.
dire que Florent gagne beaucoup d'argent, enfin en tout cas, il gagne plus qu'il ne perd à titre individuel.
Oui, mais après, le mec nous donne que ses paris qu'il gagne. Donc, c'est sûr qu'il nous informe jamais quand il perd des petits billets sur des paris ratés. En tout cas, on verra tout ça bah, dès jeudi, parce qu'il y a un podcast jeudi après la Ligue des Champions. Mais passons avant ça, avant de se projeter plus loin à la Ligue Europa, puisqu'on voulait évoquer le seul, finalement, quart de finale qui reste encore indécis. Christophe, c'est celui de l'OM qui accueille Leipzig jeudi pardon, au Vélodrome après une défaite 1-0 à l'aller. But de Timo Werner entre les jambes de Pelé. Alors on a vu ce soir en plus, juste avant l'enregistrement du podcast, la défaite de Leipzig, grosse défaite de Leipzig face à Leverkusen, qui est peut-être encourageante pour les Marseillais, ou en tout cas qui montre qu'il y a des choses dont l'OM peut profiter. Reste à savoir si Leipzig ouvrira les espaces jeudi qu'il a ouvert contre Leverkusen ce soir.
Alors, ce qui est amusant, c'est que quand je regardais les commentaires, notamment sur Twitter des Marseillais après le match, ok, tu avais la défaite 1-0, qui est quand même un assez mauvais résultat avec les buts à l'extérieur, etc. Mais beaucoup de gens se disaient, ah, bah, putain, finalement, c'est que ça, là, ici, on nous a vendu un truc incroyable. Il y a beaucoup de très bons joueurs individuellement, mais finalement, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Et Leipzig, c'est une équipe quand même aux deux visages. Et selon le match sur lequel tu tombes, et selon même parfois les phases de jeu et les séquences de 10-15 minutes, ça va être soit incroyable, soit assez catastrophique. Et tu as notamment sur ça, enfin là, l'enchaînement vraiment des dernières semaines, et je trouve assez parlant, parce que tu as le match contre le Bayern, où tu as sur les 90 minutes, tu en as 60-70 où Leipzig est largement au-dessus du Bayern, qui pour le coup, même s'il n'y a pas non plus un enjeu démesuré pour le Bayern avec la Ligue des Champions, le titre quasiment déjà acquis à l'époque, c'est quand même rare de voir le Bayern se faire bouger à ce point-là, dominer dans l'intensité, la verticalité de Leipzig qui vraiment les prenait à revers. La semaine suivante, Leipzig gagne 3-2 à Hanovre, mais avec des lacunes défensives assez énormes, un but refusé à Hanovre, avec la vidéo qui est plus ou moins discutable. Enfin, clairement, le 3-3 n'aurait pas forcément été immérité. Et derrière, ça bascule sur le 1-0 à Marseille, que beaucoup de gens ont vu, où donc tu as des bons moments collectifs, tu as des inspirations de soit des centres de Forsberg, soit Naby Keita qui prend la balle, qui casse deux lignes avec deux dribbles et qui va la porter sur 25 mètres, soit les Werner qui est l'un des rares joueurs qui arrive à combiner à la fois la vitesse de course et la capacité à les répéter, un peu comme le grand Ivica Olić d'époque, mais sans les déclarations de Jean-Michel Aulas sur sa condition physique. Mais c'est vrai que c'est vraiment une option super intéressante d'avoir Werner qui combine les talents de buteur, mais aussi la capacité à répéter les efforts, qui est quand même l'une des qualités requises pour jouer à Leipzig, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont pris notamment Augustin qui va très vite et à qui ils apprennent petit à petit le fait de travailler aussi défensivement et de courir pour récupérer la balle. Et le match de ce soir contre Leverkusen, en fait, tu avais à la fois
Défaite
les bons
4-1.
moments de Leipzig où ça va assez vite vers le but adverse et où ça court en gros. Mais tu avais aussi les buts encaissés qui étaient quasiment du même niveau de ridicule que ceux contre Hanovre, où tu as une balle qui traîne dans la surface après un coup franc, tu as eu un but 5 secondes après un 6 mètres de Leverkusen. Et en fait, c'est vrai que le point positif pour les Marseillais, c'est qu'en fait, Leipzig, peu importe la maîtrise que cette équipe peut avoir, et elle a parfois montré en laissant de gros trous face à Marseille, elle a beaucoup de mal à trouver un équilibre en fait. Et défensivement, elle est vachement prompte, elle fait assez facilement des erreurs individuelles, sans même forcément responsabiliser les joueurs à la relance, quoi. Ça va être juste des dégagements manqués ou des incompréhensions au niveau du marquage, des choses comme ça. Et je pense que là, pour le coup, c'est aussi imputable à la jeunesse de l'effectif. Mais ça veut dire que t'es pas obligé de forcément partir à l'abordage pour marquer des buts et que tu peux simplement mettre la balle un peu dans le tas et te dire que Leipzig va te donner un but. Alors Leipzig a plus de talent individuel que l'OM du moment, parce que avec les blessures, etc., tu es un petit peu obligé de bricoler en défense centrale, etc. Donc ton équipe n'est pas forcément ultra équilibrée et pas dans sa meilleure forme, dans son meilleur potentiel. Mais n'empêche que Leipzig peut très bien largement dominer le match retour contre Marseille et perdre 2-1 parce que Leipzig aura offert deux buts.
Ouais, alors ce qui est un peu inquiétant, Flo, c'est que contre Leipzig, il faut gérer très bien les transitions. Et si tu as un Luis Gustavo qui est derrière parce qu'il manque du monde, tu vas pas avoir cette présence au milieu de terrain pour couper ses contre-attaques. Et comme l'OM devra être très présent sur attaque placée pour faire la différence, alors c'est pas impossible parce que le Naples qui avait perdu 3-1 à l'aller à domicile contre Leipzig avait gagné 2-0 au retour et s'était quasiment qualifié. Ce qui est un peu, comme disait Christophe, symbolise bien les deux visages de Leipzig. C'est ce problème, c'est que tu les vois mal ne pas prendre enfin, ne pas concéder une ou deux grosses occasions que Werner se régalera de mettre au fond, quoi.
Voilà. S'il n'est pas trop gêné par les chants du Vélodrome, puisque
Bah
on
oui.
sait qu'il a des
Ah, bah,
soucis avec
il faut
ses
que les
oreilles.
supporters marseillais crient, ouais.
Ouais. Non, mais c'est vrai que en fait, Leipzig, le fait de les recevoir, en fait, à l'aller, Marseille avait quand même pas mal bétonné, hein, puisque on s'était retrouvé avec une défense à 3, il me semble, même si j'avais pas vu le match attentivement. En tout cas,
Une défense à 5, enfin
c'était
3 ou
blindé.
5 selon
Ouais.
la configuration, mais c'était plutôt à 5 vu que tu avais rarement le ballon, donc tu étais souvent replié derrière avec Sakai, Luis Gustavo, Camara dans l'axe et Sarr à Mavi sur les côtés. Mavi qui
Voilà.
d'ailleurs n'avait pas vécu le meilleur match de sa carrière.
Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai que c'est une équipe qui est jamais aussi à l'aise que quand elle doit faire face à un adversaire qu'elle doit neutraliser. Et autant à l'aller, il fallait qu'elle prenne l'initiative puisque Marseille avait adopté cette tactique-là. Et du coup, on a une équipe qui était vite en situation de déséquilibre quand elle attaquait. Et Marseille aurait sans doute dû en profiter vu les occasions assez nombreuses qu'ils ont eues. Je crois que c'est Ocampos qui fait un petit festival quand même dans la surface adverse.
Et Marseille prend quand même un but sur un contre.
Oui, en plus, justement, il y a une
Que
énorme.
Amavi ne coupe pas là où Gustavo aurait sans doute pris son carton jaune, mais
Ouais,
tant
il
pis.
aurait sans doute fait la faute, ouais, c'est vrai. Mais sur le match retour, en fait, on va être dans la config où l'OM va sans doute va devoir démarrer avec le ballon, va devoir démarrer en construisant. Et je pense que Leipzig n'est jamais aussi dangereux que quand il se retrouve face à un adversaire qui a cet objectif-là, qui doit construire son succès, qui doit. Voilà. Alors, la différence, c'est que par rapport à d'autres équipes qui sont beaucoup plus armées, comme disait Christophe, c'est que derrière, ils ne sont pas forcément fiables. Et peut-être que, comme ce soir, face à Leverkusen, un long ballon, un dégagement des 6 mètres de Pelé, une tête de Mitroglou, et si ça se trouve, y a un mec qui peut se retrouver en position de marquer. C'est ce qui s'est passé ce soir pour Leverkusen. Mais c'est vrai que dans la configuration où on aurait un OM avec 55-60% de possession face à un Leipzig replié et qui est là pour les empêcher de progresser, voilà, c'est la meilleure configuration pour eux et pour être dangereux. Donc, comme le disait Christophe, surtout ne pariez pas dessus, parce que ça peut partir vraiment dans tous les sens. Ça peut partir dans un match très fermé.
Ouais, tu peux même pas partir sur un nombre de buts parce que
Ben
finalement
non,
tu sais pas, ça
parce que.
dépend de quand il marquait le premier en fait.
Ouais, parce que ça peut partir sur un. Je sais pas si tu te rappelles du Monaco-Leipzig de Ligue des Champions, où là, tu as les deux blocs qui s'étaient totalement neutralisés, il s'était rien passé quasiment pendant 90 minutes, et les buts, je crois que ça avait fait un partout, étaient venus sur des erreurs, quoi. Individuel.
Ça me fait penser, Christophe et Florent, un peu au match qu'il y avait il y a quelques saisons entre le Dortmund de Klopp et le Leverkusen de Roger Schmidt, où c'était tellement une
Ouais, c'est ça,
confrontation
ouais.
de style similaire. Alors c'était similaire à l'époque, mais en fait ça pouvait donner tout, quoi. Ça pouvait donner un 4-4, ça pouvait donner un 0-0 parce que personne n'arrivait à faire trois passes de suite. Et le championnat allemand a tendance à créer des matchs un peu comme ça
Ouais,
parfois.
bah
Mais en
d'ailleurs
plus, quand
le.
tu ouvres le score, si à 0-0, tu vas à chaque fois chercher la passe qui tue, et si l'autre équipe n'a pas forcément besoin d'attaquer, bah, au final, ça va être faire comme match contre Monaco, quoi. Chaque équipe cherchait le chaos en deux passes, sauf que le bloc adverse était assez bien regroupé, donc du coup, il ne se passait rien. Par contre, dès qu'il y a un but, l'autre équipe va devoir attaquer, donc du coup, elle va laisser des espaces. Et au final, là, pour le coup, ça sera transition-transition, mais ça ne sera pas transition face à un bloc plus ou moins regroupé. Ça sera, tu auras à chaque fois 30 ou 40 mètres de champ, et ça fera comme les matchs de l'OL de Genesio l'an dernier contre Beşiktaş ou autre, où ça va d'un but à l'autre en permanence, quoi.
Par
Ouais,
contre,
bon.
il y a une vraie limite. Par contre, pour l'OM, c'est que si on part sur un match qui fait transition-transition, l'équipe aujourd'hui, l'équipe type de Garcia me semble beaucoup moins armée. Par exemple, que le Lyon de Genesio qu'on avait vu l'année dernière, ou qui avait vraiment marché justement dans ces matchs-là où ça partait un peu n'importe comment.
Ouais,
Là,
surtout
l'équipe de
offensivement,
Garcia avec un
t'as du mal
joueur,
à imaginer Payet et
voilà,
Mitroglou être pertinents sur ces phases-là.
exactement. Même un Germain manque sans doute de peps. À part Ocampos, puisque Thauvin est toujours pas là. Je sais pas s'il sera là jeudi d'ailleurs. Je sais pas où il en est niveau blessure. Mais à part Ocampos, aujourd'hui, l'OM n'a pas de joueur qui semble en mesure de tenir, en tout cas de joueur offensif. Hein. Au milieu, c'est peut-être autre chose. Mais de joueur offensif qui soit capable d'être vraiment très bon dans un match de ce genre-là, quoi.
Bah écoute, on espérera quand même que l'OM rejoigne sans doute Arsenal, l'Atlético et la Lazio.
Je vais dire
Sauf
juste un
si.
dernier petit mot,
Ouais, vas-y, bah dis-le.
très
Un mot, un seul mot.
tactico-tactique. Mais la petite subtilité, alors je sais pas, ça se trouve, c'est juste. Je chipote, mais il y a Laimer, le latéral droit, un jeune latéral droit qui s'est blessé au match aller. Et qui avait été très bon avec Klostermann, ça faisait une bonne paire Klostermann sur l'autre côté. Et là, sur le match contre Leverkusen, Klostermann, qui d'habitude est à gauche, a joué à droite. Et c'est Bernardo qui a joué à gauche. Donc ça, je ne sais pas à quel point ça peut déséquilibrer le truc, mais que les deux latéraux avaient été très bons, surtout Klostermann, que je ne connaissais pas spécialement, qui, je pense, doit faire du 100 mètres l'été parce qu'il va très très vite. Et l'autre chose qui est là pour le coup, et je pense plus en faveur de Leipzig, c'est que sur ce match-là, la paire de, on va dire, le double pivot, plus ou moins dans la zone de récupération, c'était Naby Keita, Kevin Campbell. Moi, j'ai jamais été trop convaincu par Kevin Campbell dans cette position-là, surtout associé à quelqu'un comme Naby Keita, qui a beaucoup de volume de jeu, mais qui est surtout tourné vers l'avant. Diego Demme, qui avait été titulaire face à l'OM, qui est resté sur le banc face à Leverkusen, et lui vraiment beaucoup plus pertinent en tant que numéro 6, qui va du coup soulager un peu Keita des tâches défensives, et qui, en gros, Keita, sa récupération de balle sera très haut sur le terrain, et Demme, lui, va être plus dans un rôle à Luis Gustavo. Et je pense que s'il y avait eu Demme contre Leverkusen, il y aurait eu beaucoup moins d'actions adverses. Et là, pour le coup, c'est peut-être ça aussi qui fait que le score ment un petit peu sur ce match-là, c'est qu'il y avait un élément qui n'est pas forcément le meilleur individuellement, mais qui permet à l'édifice d'être très solide, qui manquait sur ce match-là.
Ou c'est peut-être parce que Campbell avait encore beaucoup d'amis à Leverkusen. C'est aussi une possibilité.
Peut-être.
Bon, on espéra, comme je disais là, juste avant, que l'OM rejoigne quand même Arsenal, qui a l'air bien parti, l'Atletico aussi, et la Lazio en demi-finale, même si Salzbourg peut encore une petite chance, et ce serait quand même assez marrant de voir Leipzig et Salzbourg en demi-finale, parce qu'au tirage au sort, ça va être va y avoir des mécanismes et des trucs machiavéliques pour éviter que ça se rencontre. Parce que c'est quand même deux clubs qui secrètement, enfin même pas secrètement, tout le monde le sait, mais appartiennent au même groupe.
Et qui se refilent des joueurs
En plus, ouais.
D'un côté et de l'autre, qui prêtent à Salzbourg ceux qui ne sont pas assez bons pour Leipzig, et inversement, ceux qui sont trop bons pour Salzbourg partent en Allemagne.
Ouais. Donc, enfin, ce serait marrant de voir comment ça serait géré, parce que si ça existe et si ça crée un précédent, ensuite, comment tu fais quand les autres clubs font pareil? Enfin bref, c'est un problème qu'on aura peut-être à vivre. D'ici là, on analysera tout ça, on regardera tous ces matchs-là, puis on revient jeudi après les matchs de Ligue des Champions.
C'est ça. Et avant les matchs du week-end.
On espère que ce premier épisode où PMU nous accompagne vous aura plu. Ça continuera d'évoluer, puis ça nous permettra aussi de, comme on l'a dit, de proposer beaucoup plus de choses qu'auparavant. Et ça, c'est quand même intéressant pour nous et intéressant pour vous, je pense. Donc voilà, vivement la Coupe du Monde, où là on sera très productif. Et d'ici là, on couvrira en long et en large la Ligue des Champions et la fin des championnats européens. Merci à vous.
Salut.
Cordialement.